Bienvenue dans l'architecture des mémoires du monde sur CFM Radio, l'émission mensuelle où il est question d'astrologie parfois, de spiritualité aussi et de philosophie souvent, de mythologie et de symbolisme également. Et aujourd'hui, ce sera un peu de tout cela à la fois. Nous allons nous intéresser aux runes, R-U-N-E-S, un système d'écriture germano-scandinave utilisé depuis le 1er siècle au minimum, pour communiquer certes, mais aussi à des fins divinatoires ou incantatoires. L'intérêt aussi, c'est de voir la similitude entre les rites, les croyances utilisées autour des runes et qui se retrouvent de façon ubiquitaire un peu partout en Europe, mais on peut aussi le rattacher à d'autres coutumes ou traditions de par le monde. Une écriture qui est apparue en Occident et qui fait remonter à l'origine de la civilisation européenne, et ce qui explique peut-être, et nous le verrons, pourquoi certains de ces symboles sont repris par des nazis ou d'autres courants fascistes. Et pour nous y intéresser, nous nous appuierons sur l'ouvrage de Julie Conton, Les runes, écriture sacrée en terre du milieu, un ouvrage illustré qui est paru en 2012 aux éditions Mémoire du Monde. Julie Conton est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci de revenir, hein, parce que tu étais déjà venu il y a quelques mois pour nous parler plutôt de l'ogam celtique. Donc là, c'est un système d'écriture, un alphabet des druides, hein, qui a aussi quelques similitudes avec les runes dont on va parler. Une émission sur l'ogam celtique, hein, qui est en podcast sur cfmradio.fr. Alors aujourd'hui, les runes qui concernent plutôt une autre ère, on va dire d'Europe occidentale, mais que tu confrontes, hein, pour voir les similitudes entre les runes et l'ogam celtique, mais aussi avec l'astrologie, le tarot ou la mythologie, histoire de trouver des liens entre tout cela. Mais bon, on va commencer par définir la base. Les runes, ça veut dire secret, mystère, il y a un côté un peu caché dans tout ça, et pourtant une écriture, c'est pas forcément caché.
Oui, alors les runes, au niveau étymologique, ça signifie secret, murmure et mystère. Hein, donc ça, c'est l'origine du mot rune. Alors c'est un alphabet à la base, mais c'est un alphabet sacré, donc un alphabet mystique qui a été utilisé à des fins aussi magico-divinatoires.
Ouais.
Donc il y a à la fois le côté scriptural, enfin pour écrire. Mais de manière plus ancienne, c'était à la base quand même des symboles magico-divinatoires.
Donc tu dis que c'est un alphabet, c'est vrai qu'il y a certaines lettres qui ressemblent d'ailleurs à notre alphabet. Mais j'ai cru comprendre qu'on n'arrive pas à savoir si les runes étaient antérieures, on va dire, à l'alphabet latin ou au grec. On ne sait pas qui est arrivé avant qui finalement.
Alors en fait, en tant qu'alphabet, les runes, on le date à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ça a été utilisé en tant qu'écriture jusqu'à la fin du 19e. Mais les ancêtres des runes, en fait, c'est les gravures rupestres scandinaves qui sont assez proches. Enfin, et là, ces gravures rupestres, on les date de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, donc l'âge du bronze. Et on pense que les runes, enfin ça, c'est une des théories linguistiques, mais finalement, tous les spécialistes ne sont pas forcément d'accord. Mais la théorie la plus acceptée aujourd'hui, ce serait que les runes dérivent d'un mélange, d'une sorte de fusion entre ces gravures rupestres très anciennes datant de l'âge du bronze, qui étaient avant tout magico-divinatoires, donc d'une fusion de ces symboles-là avec l'alphabet étrusque, qui est assez proche aussi.
Oui, l'alphabet étrusque qui a quand même influé aussi sur l'alphabet latin.
Voilà,
si je
voilà.
me souviens bien, les symboles se ressemblent. Quoi,
voilà,
en tout cas,
alors donc il y a des liens un peu entre, disons qu'il y a une double origine à la fois magico-divinatoire très ancienne et une origine un peu plus récente, plus alphabétique. Et les deux auraient fusionné pour donner un alphabet sacré en quelque sorte avec des pratiques magico-divinatoires, voilà.
Bon, on va en parler de ces pratiques magico-divinatoires, comment avec une écriture on fait cela. Mais déjà, ce qu'on peut dire aussi sur cet alphabet-là, en tout cas sur les lettres, elles sont plutôt angulaires, hein, c'est pas de belles lettres que l'on va former, parce que déjà à l'époque, ils ne gravaient pas ces lettres-là sur du papier, c'était plutôt sur la pierre, donc il fallait pouvoir le faire. Donc c'est pas vraiment des lettres courbes.
Oui, c'est une caractéristique des runes. C'est effectivement des symboles très angulaires et assez simples. parce que on les gravait, sur la pierre ou bien dans du bois ou gravé sur du cuir. Enfin voilà,
mais sur les os aussi, ouais.
Et sur les os, ouais. L'ivoire. Mm-hmm. Donc effectivement, ça se prêtait mal à des courbes.
Enfin, ouais, ouais.
Donc c'est sans doute pour cela que les symboles sont assez simples et angulaires, oui.
Oui, donc on a retrouvé des traces de d'objets avec des runes gravées. On parle de bijoux, d'amulettes, de pierres aussi. Donc j'imagine que les pierres, c'était peut-être pour laisser des messages à celui qui pouvait déchiffrer cela, des choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner un peu des traces qu'on trouve de ces runes-là?
Oui, alors dans la pierre, c'est essentiellement des stèles funéraires, un peu pour les ogames d'ailleurs. Donc pour la mémoire du défunt, donc avec le nom et puis les quelques faits notables, enfin voilà, donc sur les stèles funéraires. Et sur les objets, alors c'est sur des bijoux, oui, des épées.
Ah hein, oui, protège mon épée,
Des épées, voilà, pour aller au combat, donc avec une dimension magique. Uh-huh. Donc voilà, ce type d'objet, des coffres aussi. Uh-huh. Des coffres en bois.
Ok, ouais, donc pour protéger aussi, parce qu'il y avait aussi ce côté de protection. Et tiens, parlons-en, parce que tu nous fais comprendre que c'est une écriture, pas uniquement une écriture, on va dire. Mmh. Et tu dis que ce sont des lettres sacrées qui nous ouvrent à la pensée nordique, entre la mythologie, les elfes, la magie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cela?
Oui, alors c'est un peu comme l'ogame, là encore, c'est-à-dire que chaque lettre a toute une signification, un symbolisme. Donc c'est en quelque sorte un support de la connaissance et de la mythologie scandinave. Mmh. Donc telle rune est associée à telle divinité ou bien tel élément de la nature. Donc pour comprendre le symbolisme, en fait, on rentre dans toute la mythologie nordique. Et donc, toute une culture, en fait.
Ouais, donc c'est comme si nous, aujourd'hui, avec notre alphabet à nous, là, on se dit, bah, tiens, la lettre B est rattachée à... tel arbre est rattaché à tel, fleuve, à telle chose. Bref, est toujours rattaché à quelque chose de naturel.
Oui,
plus,
oui,
plus
c'est
ou
ça.
Moins,
oui,
ouais,
oui,
ouais.
Donc, oui,
y a,
c'est ça.
Ouais,
oui.
Un peu comme en Afrique, avec ce côté, le sable, des coris, des objets. Donc, il y a vraiment ce lien avec la nature. Et tu parles aussi des rites chamaniques, que cela faisait partie intégrante des rites chamaniques. Donc, déjà, pour ceux qui découvrent, il y avait des chamans en Europe du Nord. Et même, c'est par ton bouquin que moi j'ai appris que même le terme chaman vient plutôt de Sibérie. Voilà, c'était déjà des prêtres un peu en Sibérie qu'on appelle des chamans, et finalement on appelait tout le monde des chamans, mais ça vient de Sibérie. Donc quel était le rôle finalement de ces runes-là? Parce que j'arrive pas à comprendre comment une écriture peut devenir le centre, ou en tout cas l'une des parties prenantes d'un rituel chamanique. Est-ce que ça, tu l'as su, toi, en faisant tes recherches sur les runes? Est-ce que le fait d'écrire comme ça sur la pierre, qu'est-ce que ça fait après?
Ce sont des symboles. Donc, en fait, on retrouve cela dans toutes les traditions, sur les autres continents aussi. Mm-hmm. Je pense que, enfin, quelles que soient les traditions, il y a très souvent des symboles concrets, matériels, que l'on peut graver, dessiner. Mm-hmm. Donc, c'est une sorte de support. C'est une sorte de support à quelque chose de spirituel, mais un peu comme un aide-mémoire aussi.
Ouais, c'est un peu comme le yin et le yang qu'on voit partout aujourd'hui, même sur des t-shirts, des pins.
Oui, voilà. Le yin et le yang, c'est un symbole taoïste, par exemple. Mm-hmm. Mais on trouve dans le bouddhisme des symboles aussi. Enfin, dans toutes les traditions, il y a vraiment cette notion de concrétisation, en fait, d'une idée, d'une pensée, d'une énergie.
Ouais.
Donc là, ce sont des sortes d'énergies densifiées dans un simple petit dessin. Donc ça peut paraître dérisoire, mais c'est, enfin, le symbole, enfin disons, c'est juste un support. Mm-hmm. Qui renvoie à autre chose de
plus grand.
Voilà, de plus grand, en fait. C'est le propre du symbole aussi. Hein.
Mais tiens, donne-nous un exemple un peu, parce que bon, les runes, on l'a dit, c'est comme un alphabet qui est rattaché, où chaque symbole, chaque lettre est rattaché à des éléments naturels. Est-ce que tu as des exemples à nous donner un peu comme ça, là, sur des runes?
Oui, alors, Par exemple, la rune Turizaz, donc chaque rune a un nom, la rune Turizaz qui correspond d'ailleurs à la lettre T, comme le début de la rune, c'est une rune qui est liée au dieu Thor. Or, le dieu Thor, c'est le fils d'Odin, c'est le dieu de la force, c'est un géant donc de la guerre aussi, et c'est le dieu qui est en lien avec l'orage, la foudre.
Oui.
Donc au niveau naturel, c'est la rune de la foudre. Et aussi de l'action, de l'énergie, de la force brute. Donc il y a une très grande puissance qui est liée à cette rune, qui renvoie à la fois au dieu Thor et à l'orage, à la foudre. Donc on peut rattacher d'ailleurs cette rune à d'autres divinités dans d'autres mythologies, donc Zeus, Jupiter, chez les gréco-romains, ou Dagda, le dieu Dagda celte, ou le Taranis gaulois. Qui sont tous des dieux de l'orage.
De l'orage aussi ouais.
Voilà. Donc c'est une rune très masculine, qui est liée au courage, au combat. Donc elle pousse à l'action, elle pousse
à la bataille, quoi.
À la bataille. Ouais. Alors elle peut nous mettre en garde aussi contre la violence, contre la colère, contre l'impatience, la précipitation. Parce que pour chaque rune, il y a toujours la phase d'ombre et de lumière. Enfin, avant tout, la phase de lumière, mais aussi, il y a toujours une part d'ombre,
aussi,
voilà.
Ouais,
voilà. Ouais. Mmh. Donc, la part d'ombre de Turizaz, bah, c'est ça, c'est la colère, la précipitation, la violence aveugle. Donc, elle peut, en tirage, elle peut nous inciter aussi à nous mettre en garde contre les excès aussi de, voilà.
Quand tu dis en tirage, ça veut dire quoi? Que les runes peuvent être, par exemple, gravées, dessinées sur des cartes? Et que l'on va, après avoir peut-être fait une prière, une méditation, tirer au hasard pour voir ce que les astres auraient à nous dire.
Oui, alors, donc on peut les dessiner sur des cartes aujourd'hui, enfin, bien sûr. Mais traditionnellement, c'était plutôt des galets. Donc on peut les dessiner aussi sur des petits galets ou des baguettes, comme les ogames. Après, une fois encore, ce qui compte, c'est le symbole. C'est pas forcément le support physique du symbole.
Oui.
Voilà, mais habituellement, c'est plutôt sur des galets qu'on grave
qu'on
ou que l'on
fait, ça,
peint
ouais.
des runes.
Mm-hmm.
Donc voilà. Alors ça, c'est un exemple. Turizaz. Après, pour les éléments de la nature, on a par exemple la rune Uruz, qui est un peu l'archétype maternel. C'est un peu la mère primitive. Et alors, Uruz, elle est en lien avec l'élément terre et eau. Donc, c'est une rune qui nous met en contact avec les sources sacrées, avec les eaux à la fois purificatrices et de guérison. Donc, c'est une rune, après, qui, dans son symbolisme, est liée à la fois à la protection maternelle, à la douceur, à toutes ces énergies féminines et maternelles, et qui symbolise aussi, donc, tout ce qui est guérison, santé et purification aussi.
Purification aussi.
Voilà.
Ah, les runes. Cette écriture et système symbolique germano-scandinave qui a été largement retrouvé en Europe, hein, parce qu'on parle de l'ère germano-scandinave, mais on a retrouvé des traces de runes en France aussi. Hein, on le trouve en Italie, un peu partout en Europe du Nord, jusqu'aux confins de l'Europe occidentale. On parle de cette écriture aujourd'hui dans l'architecture des mémoires du monde avec Julie Conton. On écoute un peu de musique, c'est Susana Paca Sorongo.
La trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en la plantación de caña nació el triste socavón.
Dime Sorongo, dime Sorongo, que es lo que el negro tiene de blanco, que es lo que el blanco tiene de Congo. Dime Sorongo, dime Sorongo, que es lo que el negro tiene.
El machete y la guadaña, curió su mano.
indio con sus quenas y el negro con tamboril cantaron su triste suerte al compás de las cadenas.
Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo.
Le titre que vous venez d'entendre, c'était Sorongo dans l'architecture des mémoires du monde sur CFM Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Julie Contant avec qui nous parlons des runes, écriture et système symbolique germano-scandinave qui étaient largement utilisés au minimum depuis le 1er siècle jusqu'au 19e siècle. C'était un pilier de la tradition nordique parmi d'autres. Avec le christianisme par contre, ça ne passait pas trop et ce fut un peu interdit. Et c'est pas le seul moment où les runes sont, on va dire, retombées un peu dans l'oubli. Là actuellement ça repart pas mal parce que beaucoup de gens s'intéressent à la mythologie et le lien avec la mythologie est assez évident, Julie Contant, entre les runes et la mythologie. Tu nous as parlé d'ailleurs d'Odin un peu plus tôt.
Oui. En effet, chaque rune a un lien, pas de manière systématique forcément avec des divinités, parce que c'est parfois aussi des éléments naturels, donc c'est pas seulement les divinités, mais effectivement, toutes les divinités du panthéon scandinave sont représentées d'une manière ou d'une autre en lien avec les runes.
Oui. Donc c'était aussi un moyen pour eux peut-être de conserver leur histoire passée, non? Parce que souvent, dans les traditions orales comme ça, là, le fait de rattacher à plein de choses, c'est aussi une manière de dire, n'oubliez pas, Odin, c'est peut-être notre boss, Thor, aussi un des boss, etc. Quoi. C'est peut-être aussi ça, des moyens comme ça.
Oui, c'est un moyen mnémotechnique. En même temps, c'est un support de connaissances.
Comme je le disais. Alors, le rattachement à l'origine des premières civilisations européennes aussi des runes, est aujourd'hui accepté par tout le monde. Mais par contre, cela a inspiré les nazis et les ultranationalistes à se saisir de certains de ces symboles-là. Je pense notamment au symbole SS des nazis. Ces deux runes, en fait, qui ont été utilisées pour faire ce symbole-là que tout le monde doit visualiser, malheureusement.
Oui, alors, donc le symbole des SS, c'est effectivement deux runes, enfin le redoublement de la même rune, qui est la rune Sovilo, qui est liée à la lettre S. Mais ce qui est intéressant, c'est son symbolisme, puisque c'est un symbolisme de la victoire. La rune Sovilo, c'est la rune du soleil, à la base. Donc, c'est là encore un élément du cosmos. Donc, elle représente le soleil. Donc, elle est en lien avec la déesse du soleil, Sol, qui est rayonnante avec sa chevelure d'or. Et cette rune symbolise finalement le succès, la victoire et les honneurs. Et donc c'est pour cela que les nazis ont essayé de récupérer ce symbole.
Oui.
Puisque c'était parmi symbole. Toutes les runes un symbole de victoire,
de victoire
en fait.
Ouais. Bon, ça a pas de trop victoire bien marché, là, quand
même. C'est-à-dire que quand on dévie les énergies, dans le sens du mal, Bah là, il y a toujours un risque de se prendre le choc en retour.
Ah bon, mais tant mieux. Parce voilà. Parce que c'était pas le seul symbole qu'ils ont récupéré. Il y a aussi celui de la croix gammée, la svastiska.
Oui.
Qui est aussi un symbole runique, je crois.
Alors, la croix gammée, en fait, elle dérive de Sovilo, là encore. Mm-hmm. Sauf que là, l'angle n'est pas tout à fait le même, mais c'est une variante de Sovilo, en fait. Donc, c'est deux runes Sovilo entrecroisées, mais qui n'ont pas tout à fait la même inclinaison, quoi.
Ok.
Donc, à la fois, c'est de nouveau la même rune de la victoire. Et aussi, la svastika est un symbole très ancien bouddhiste qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain et qui, évidemment, n'a pas du tout le même sens, qui a un sens spirituel. Donc, là aussi, il y a eu une récupération à contre-courant complètement d'un symbole spirituel.
Eh bien, tiens,
la svastika, c'est pas seulement la rune Sovilo, il y a aussi une autre origine, quoi.
Mais tiens, ça nous permet de passer un peu à l'autre sujet et dernière partie de cette émission, c'est la valeur ajoutée aussi de ton ouvrage, c'est les comparaisons que tu fais entre les runes et d'autres systèmes symboliques qui sont connus, tu les mets en relation, on a parlé de l'ogame celtique, mais il n'y a pas que cela. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été ta démarche et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette comparaison-là?
Oui, alors ce qui m'a intéressé, c'est en particulier la comparaison avec l'ogame celtique. Enfin, ça déjà, je l'ai fait de manière systématique, parce que ce sont vraiment deux alphabets sacrés, à peu près datés des mêmes périodes, plus ou moins la même région. Enfin, sauf que les runes, c'est plus nordique au niveau européen, et les ogames, c'est vraiment celte, donc c'est plus les îles. Irlande, enfin, c'est un petit peu plus au sud, mais enfin, vraiment, il y avait des liens entre géographiquement aussi. Effectivement, donc, j'ai entrepris de prendre lettre par lettre, puisque c'est quand même deux alphabets qui correspondent aussi à des sons, comme des alphabets, donc. Mmh. Et après, j'ai comparé les symbolismes pour une même lettre, en fait, pour un même son.
Pour un même son.
Et je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des liens au niveau du symbolisme également. Donc si on prend par exemple, si on reprend la rune Turizaz, la rune du dieu Thor, qui correspond au son T et D, l'équivalent dans l'ogame celtique, c'est la rune du chêne, donc la rune d'huir, qui fait aussi le D et le T. Et ça correspond complètement, puisque le chêne symbolise la force.
La force, la puissance.
La force, la puissance. Mmh. Voilà, donc on a vraiment le même symbolisme général. Bon, après, même s'il peut y avoir des petites variations, mais le symbolisme de base, c'est le même. Voilà, et le chêne était en lien aussi avec l'orage, aussi. Et donc, le chêne, c'est le dieu Taranis, justement, ou Dagda, celte, qui sont aussi des divinités de l'orage.
Okay.
Donc là, vraiment, c'est vraiment extrêmement
toi,
clair.
Ouais. Mm-hmm.
Pour les ogames très clairs aussi, on a Uruz, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est lié à la source, à la guérison, à la purification. Et on a justement, même au niveau du nom de l'ogame, un ogame qui s'appelle Ur. Donc Ur, Uruz, voilà, c'est UR. Hein, donc c'est vraiment, là, le nom est identique, là, en plus. Et dans l'ogame, c'est la rune de la bruyère et du gui, qui sont des symboles de guérison, hein, aussi, donc, et de purification. Donc là, bon, là, c'est vraiment particulièrement évident, puisque c'est la même chose. Après, pour d'autres symboles, c'est un petit peu moins évident, mais vraiment...
On arrive quand même à retrouver des choses. Tu nous parles aussi des liens avec la tarologie, avec pas mal de connaissances mythologiques. Tu le dis, hein, s'intéresser aux runes, c'est une démarche d'ouverture culturelle, historique, certes, mais aussi symbolique, spirituelle et philosophique. Un bouquin qui nous plonge finalement dans une histoire de l'Europe que l'on oublie peut-être. Hein, on oublie qu'à l'époque, l'Europe n'était pas aussi matérialiste qu'aujourd'hui. On a un peu oublié ce assez initiatique, chamanique, très lié à la nature autrefois. On le sait, mais ce sont des petits cailloux blancs supplémentaires pour se rappeler tout cela. Merci Julie, content de nous avoir éclairé sur ce sujet, hein, des runes, une écriture, mais pas seulement. Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est « Les runes, l'écriture sacrée en terre du milieu ». En terre du milieu, voilà, que l'on peut retrouver aux éditions Mémoire du Monde. Et c'est disponible à la commande sur votre site internet, édition Mémoire du Monde, maison d'édition associative, qui est basée ici à Cordes-sur-Ciel. Et le mois prochain, car nous nous donnons rendez-vous tous les mois, on entame une série d'émissions sur le zodiaque de Cordes-sur-Ciel. C'est en prévision des 800 ans de la cité de Cordes et on va aller de quartier par quartier. Merci beaucoup, Julie.
Oui, merci, au revoir.